Séoul au jour le jour. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. La pandémie de COVID-19 a considérablement affecté l'industrie du voyage. L'année dernière, le nombre d'étrangers qui ont visité la Corée du Sud est tombé sous la barre d'un million de personnes. C'est une première depuis le début de l'établissement des statistiques en la matière. Cependant, cela ne signifie pas que les gens ont cessé de voyager. Ayant souffert de la crise sanitaire, beaucoup de gens sont partis dans la nature pour prendre une bouffée d'oxygène. L'industrie du voyage est l'un des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire. L'ensemble de ses pertes en 2020 est évalué à 4,7 milliards d'euros. Les agences de voyage ont vu dégringoler leur chiffre d'affaires, mais ce n'est pas parce que les consommateurs ont renoncé à partir. Ils ont fait appel aux services mobiles pour réserver l'hébergement à la place des agences physiques. Dans ce contexte, les plateformes spécialisées dans l'hébergement ont enregistré de bons résultats. L'une d'entre elles a affiché en 2020 44% d'augmentation de son chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. L'épidémie a complètement changé la façon de pratiquer les loisirs. Comme il est devenu difficile de se rendre dans les centres de remise en forme ou les piscines, les gens se sont tournés vers la montagne. Même les jeunes qui, auparavant, n'aimaient pas cette activité ont pris goût à la randonnée. Ainsi, les photos de montagne qu'ils ont postées envahissent les réseaux sociaux. En effet, l'an dernier, les visiteurs des parcs nationaux se sont multipliés pour dépasser les 33 millions de personnes, alors que le nombre de visiteurs dans la plupart des célèbres sites touristiques a diminué de moitié. Certains parcs nationaux accueillent plus de visiteurs depuis la propagation de l'épidémie. Ce sont par exemple les monts Pukan, Kaerong et Chiak. Ils sont tous situés près de grandes villes et il est facile d'y accéder en voiture. Dans le cas du mont Pukan, de janvier à novembre de l'année dernière, 6,3 millions de personnes s'y sont rendues. Il s'agit d'une hausse de 33% par rapport à 2019. En revanche, les montagnes convoitées par les amateurs d'alpinisme ont vu diminuer le nombre de visiteurs. Celui du mont Seorak a chuté de 33%. Dans cette crise sanitaire, le nombre d'amateurs de voyage à pied a aussi grimpé. Sur l'île de Jeju, ceux qui ont marché sur l'ensemble des 26 sentiers Jeju-Ulle, d'une longueur totale de 425 km, se multiplient rapidement. Leur nombre est passé de 1600 en 2019 à 2800 en 2020, avant de dépasser les 4000 l'an dernier. De ce fait, dans une enquête réalisée en 2020 par l'Office national du tourisme coréen, les chemins aménagés pour la marche ont été sélectionnés comme les sites touristiques en plein air les plus appréciés à l'ère du COVID-19. Depuis la propagation du COVID-19, en cas de décès causé par cette épidémie, les autorités compétentes obligent à incinérer les corps le jour même de leur mort avant d'organiser des obsèques. Beaucoup de familles endeuillées s'y opposent, mais cette directive n'a pas changé en cette nouvelle année. L'Organisation mondiale de la santé a affirmé que rien ne prouvait que la contagion du coronavirus soit provoquée à travers les corps, car les virus de cette maladie se propagent essentiellement par l'intermédiaire de gouttelettes provenant des personnes infectées. Or, les défunts ne respirent pas, donc pas de possibilité de contamination. Le gouvernement sud-coréen a annoncé la modification des directives concernant les funérailles selon les recommandations de l'Organisation mondiale et des spécialistes des maladies infectieuses. Cependant, il n'a pas encore présenté de nouvelles consignes. Beaucoup indiquent qu'il est inhumain d'empêcher les familles endeuillées d'avoir le temps de dire au revoir dignement aux défunts avant d'insérer leur corps. Il est d'autant plus affligeant que ses proches ne peuvent pas être avec les malades puisque ces derniers sont placés dans des chambres d'isolement lorsqu'ils sont en vie. Malgré ces remarques, le gouvernement a du mal à rectifier les mesures existantes. car le secteur funéraire s'y oppose. Les salles de pompe funèbres ne veulent pas que les gens sachent qu'ils ont organisé des obsèques pour les personnes décédées du COVID-19, de crainte que d'autres personnes évitent du coup leur établissement. Ceci étant, afin de respecter le droit humain des défunts et de leurs familles et d'éviter les pertes des salles de pompe funèbres, il faut qu'avant tout la mentalité de la population vis-à-vis des décès causés par la pandémie change. Et il est également nécessaire d'améliorer les procédures des obsèques qui posent des inconvénients. Par exemple, actuellement, de ceux qui nettoient et habillent les corps pour les envelopper avec un tissu de lin doivent porter une combinaison de protection durant leur travail. Le gouvernement devrait aussi présenter des fondements scientifiques qui peuvent convaincre la population et le secteur funéraire pour modifier convenablement les directives actuelles qui sont remises en cause. Voici une chanson qui parle d'une séparation aussi triste que la mort. La séparation interprétée par Kilgou Bungu.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Pour cette édition de Séoul au jour le jour du mercredi 12 janvier, vous êtes en compagnie de Ko Jang-sun. Yi, qui habite à Séoul, a participé à un projet consistant à diminuer les déchets. À travers ce programme, elle a pu réduire la quantité d'ordures ménagères de plus de 20% en mesurant la quantité de détritus qu'elle jetait, en triant ceux recyclables et en utilisant moins de produits en plastique. Ce projet a été mené de septembre à novembre de l'année dernière par la municipalité. Les 164 ménages participants ont reçu des balances et des boîtes tri sélectifs d'ordures destinées à mesurer la quantité de déchets ménagers et recyclables qu'ils généraient. Dans le cadre de ce programme, la quantité de détritus produits dans ces foyers a diminué de 40% par personne. Ils ont également fait d'autres efforts. Quand ils achetaient des plats cuisinés, ils apportaient leurs propres récipients pour éviter d'utiliser des contenants jetables. Et quand ils faisaient leurs courses, ils apportaient des sacs à provisions ou des sacs en toile. Selon la municipalité, si on compare les résultats du projet du premier mois avec ceux du dernier, la quantité de déchets produits par personne a diminué de 5,8 kg à 3,4 kg. En particulier, les ménages d'une seule personne en ont réduit le plus. Et plus la taille des ménages était grande, plus ils ont généré des ordures. Plus précisément, un foyer formé d'une personne a diminué de 5,8 kg ses déchets. Cette quantité baisse de 4,8 kg chez les ménages de deux personnes, de 3,8 kg chez ceux de trois personnes et enfin de 2,7 kg chez ceux de quatre personnes. Quant aux déchets recyclables, leur quantité a diminué de 31% par personne. Si on s'intéresse aux catégories des déchets, le papier a réduit le plus, à savoir de 3,5 à 2,3 kg. Viennent ensuite le plastique, le vinyle et le polystyrène extrudé. Pour les foyers d'une personne, le taux de réduction de déchets ménagers était de 48%, alors que celui des déchets recyclables était de 24%. Cela s'explique par le fait qu'ils ont trié des détritus recyclables qu'ils avaient auparavant l'habitude de jeter parmi les ordures ménagères. En revanche, chez les autres ménages, l'écart entre ces deux taux n'est pas important. Beaucoup de participants de ce programme ont estimé qu'ils avaient réussi à réduire la quantité totale de déchets, mais pas celle d'objets à usage unique. Afin de diminuer les détritus en plastique, on peut utiliser des gobelets ou des produits à usage multiple. Cependant, il est difficile pour les papiers, les vinyles et le polystyrène extrudé à cause des matériaux d'emballage utilisés lors des livraisons. En hiver, les collations chaudes proposées dans les échoppes ambulantes dans les rues sont très appréciées par les Sud-Coréens. Ce sont par exemple bungeoppang, un pain en forme de poisson garni de pâte haricot rouge, hotteok, un pancake fourré au sucre, à la cannelle et aux cacahuètes, ou omuk, une pâte poisson étuvée. Or, ces derniers temps, il est difficile de trouver des vendeurs de ces mets parce que, depuis la crise sanitaire, en raison de la chute de leur chiffre d'affaires et la hausse du coût des ingrédients, beaucoup d'entre eux ont mis la clé sous la porte. Yi est un vendeur de bungeoppang. Selon lui, cette année, il doit payer 20 à 30% de plus pour acheter la même quantité d'ingrédients par rapport à l'année dernière. Ainsi, s'il vend ce fameux bungeoppang pour 1000 won, sa marge n'est que de 300 won. Un autre vendeur qui travaille avec sa femme pendant 9 heures par jour enregistre un bénéfice net de 100 000 won, soit 73 euros par jour. La diminution des gens qui circulent dans la rue est aussi l'un des facteurs de leurs mauvais résultats commerciaux. Dans ce contexte, par rapport à la période d'avant Covid-19, leur chiffre d'affaires a chuté de moitié et ils ont avancé l'heure de fermeture à 20 heures. La baisse de leur nombre est constatée dans les statistiques. Selon la municipalité de Séoul, ce chiffre est passé de 7 700 en 2016 à 5 800 l'an dernier. S'y ajoutent ceux qui n'ont pas déclaré leur fermeture et qui échappent ainsi aux statistiques. Face à cette diminution, les consommateurs partagent des informations sur leur localisation à travers des sites communautaires ou des applications mobiles. L'une d'entre celles-ci a affiché plus de 50 000 téléchargements. Si les utilisateurs y enregistrent les lieux de ce type de commerce, d'autres peuvent profiter de ces données pour s'y rendre et acheter leur collation préférée. Comme bon nombre des shops ambulantes du genre ont disparu, il faut parfois aller jusqu'à des quartiers adjacents. Malheureusement, ces informations ne sont pas toujours correctes. Kim, qui habite à Séoul, a récemment dû errer dans la rue pendant plus d'une heure avant d'acheter un bungeoppang. Il a consulté une application mobile qui indique la localisation des vendeurs de cet encas, mais beaucoup de ces commerces avaient disparu. À sa troisième tentative, il a pu en trouver un. Il a cependant dû faire la queue en attendant son tour, car beaucoup de gourmands comme Kim y avaient afflué. Puisqu'on parle de la recherche de ce qu'on aime, écoutons une chanson de circonstance interprétée par Epitome Project, Où es-tu ? 눈물은 보이지 말기 그저 웃으며 짧게 안녕이라고 멋있게 영화처럼 담담히 우리도 Au cœur de Séoul, à côté de la cathédrale de Myeongdong, se trouve un restaurant hors du commun. Il ouvre ses portes tous les mercredis, vendredis et dimanches de 11h à 16h pour offrir des repas gratuits aux sans-abri et aux personnes âgées qui habitent seules. Il s'agit du restaurant Myeongdong, dirigé par l'archidiocèse de Séoul de l'Église catholique. Cet établissement a vu le jour grâce à la volonté du cardinal Yeom Soo-jung. Au début de 2020, juste après la propagation du Covid-19, il a proposé d'ouvrir une soupe populaire pour les personnes nécessiteuses qui souffraient le plus de la crise sanitaire. À l'époque, les soupes populaires existantes fermaient leurs portes une à une. Après avoir pris cette décision, les responsables de ce projet ont visité plusieurs de ces lieux et ont mené des enquêtes auprès des sans-abri. Puis, ils ont recruté des bénévoles et des donateurs et ont effectué des simulations avant d'ouvrir leur restaurant en janvier 2021. Au début, il y avait plusieurs obstacles. Tout d'abord, les sans-logis demandaient s'ils pouvaient entrer dans la cathédrale. car pour se rendre au restaurant, il faut passer par la cour en face du bâtiment de l'église, et cela les mettait mal à l'aise. Et le dimanche, lors de la messe, on offre des repas aux fidèles. Du coup, beaucoup craignaient que l'exploitation du restaurant affecte l'atmosphère des messes. Mais un an après, cette inquiétude s'est avérée inutile. À cause de la crise sanitaire, le restaurant Myeongdong a commencé par fournir des paniers repas. Les soutiens de plusieurs grandes entreprises et donateurs se sont succédés. La distribution des repas sur place a commencé en mai dernier. Jusqu'à la fin de l'année dernière, environ 80 000 y ont mangé. Le nombre de bénévoles s'élève à 940. Pendant un an, nombreux changements ont été opérés. Après avoir mangé, certains bénéficiaires de la subvention gouvernementale pour le coût basique de la vie laissent sur la table un ou deux billets de 10 000 won, soit 7 euros. Même si on le refuse, ils insistent. Et de leur côté, les volontaires du restaurant avouent qu'ils ignoraient qu'autant de personnes dans le besoin vivaient dans les environs de la cathédrale. À l'occasion de son premier anniversaire, l'établissement a un rêve encore plus ambitieux. Il envisage de proposer divers programmes concernant les soins de beauté ou la psychothérapie quand la crise sanitaire s'apaisera. À Wanju, dans la province de Jeolla du Nord, il y a une entreprise de gâteaux de riz baptisée Wanju Tongmaemal. Si elle se distingue des autres firmes, c'est que la majorité de son personnel sont des personnes en situation de handicap. Parmi 44 employés, 32 ont un trouble du développement ou un handicap physique. L'année dernière, cette compagnie a enregistré 750 000 euros de chiffre d'affaires. La première année de sa création, ses ventes étaient de 130 000 euros et l'année suivante, ce chiffre a plus que doublé. Puis, elle a continué de voir augmenter son chiffre d'affaires jusqu'à maintenant. Wanju Tongmaemal a été fondée dans le but d'offrir des emplois stables aux personnes gravement handicapées et de les aider à mener une vie indépendante. En août 2008, la société a été sélectionnée pour un projet d'embauche des personnes gravement handicapées mené par le ministère de la Santé. Avec la subvention de ce dernier, elle a commencé à produire des gâteaux de riz. Mais la fabrication de gâteaux de riz avec ses employés atteints d'un handicap n'était pas facile du tout. Cette entreprise a énormément expérimenté en jetant un tas de produits ratés. Au fur et à mesure qu'elle s'assurait d'une capacité de production stable, elle pouvait trouver une clientèle. Maintenant, elle a environ 300 clients. Et entre-temps, le nombre de ses employés a augmenté à 32 personnes. Ils travaillent dans cette boîte pendant 7 ans en moyenne. Jusqu'à maintenant, l'entreprise a surmonté plusieurs difficultés. En 2019, avec l'augmentation du salaire minimum, parmi ses 32 employés avec un handicap, seulement 9 personnes ont travaillé à temps plein. Les autres sont devenus des travailleurs à temps partiel. Du coup, certains d'entre eux ont quitté la firme et pendant 6 mois, elle manquait de main-d'œuvre. L'année dernière, période pendant laquelle le COVID-19 s'est propagé dans tout le pays, la distribution de déjeuners dans les établissements scolaires a été suspendue. Et l'entreprise a connu une baisse de son chiffre d'affaires pour la première fois. Cependant, elle s'est tournée vers la vente en ligne et elle a ainsi pu surmonter cette crise. La directrice générale de cette compagnie, Yang Jong-soo, se dit très heureuse de voir les personnes handicapées trouver le sens de leur vie et obtenir leur indépendance financière. Désormais, son objectif est de créer un environnement qui permet d'embaucher plus d'individus en situation de handicap. Voilà, nous allons écouter une chanson avant de passer le micro à Antoine Coppola pour Tout un cinéma. Voici la chanson de A-Pink intitulée « Une histoire comme un miracle ».
Okay. Bonsoir à toutes et à tous. Le film d'animation The Shaman Sorceress de Han Jae-hoon est ressorti cet hiver sur les écrans sud-coréens. Il serait, paraît-il, le dernier dessin animé à utiliser du papier et des pinceaux avant la vague des films faits sur ordinateur. Primé au célèbre festival de Annecy, le film est depuis pris en charge par un gros distributeur français, Wild Bunch. L'histoire se déroule à l'époque de transition entre le féodalisme et l'époque actuelle. Une chamane, dite Mundang en coréen, se fait concurrencer par le développement du christianisme dans le pays. Un narrateur explique l'histoire de cette famille réputée dont le grand-père était un artiste, mais que les événements ont conduit à la faillite. Mais face à cette décadence de la tradition, Nang Yi affiche son talent de peintre, bien que sourde. On apprend qu'elle est la fille de Moa, qui vit dans l'harmonie traditionnelle parfaite. Elle envoie même son jeune demi-frère s'éduquer dans un temple bouddhiste. Mais Nang Yi ne l'entend pas de cette oreille et perd l'ouïe. Sa mère, elle, se retrouve possédée par un démon et se déclare chamane. Les choses se compliquent. Quand le jeune frère revient en bon chrétien occidentalisé, les choses tournent à l'affrontement avec sa mère chamane. Celle-ci enchaîne danse et chant pour dire son malaise, tandis que son fils l'accuse de superstition. Sa mère en perd la ferveur de la population. Mais elle ne renonce pas. Et à force de danse et de chant en transe, quasi mystique, elle tente de regagner leur confiance. La musique du pansori vient rivaliser avec la musique occidentale. Le vieux credo du choc des cultures est toujours vivant pour l'auteur du récit, Kim Dong-ri. Mais ce qui étonne, c'est que le réalisateur qui a transformé le récit en drame musical semble continuer à y croire, en 2016, date d'origine de la réalisation du film. Ce qui frappe au premier coup d'œil dans ce dessin animé, c'est le travail documentaire autour du chamanisme coréen de l'époque, les années 20. Le premier goutte dans ce rituel chamanique est plein de couleurs et de lumière, mais la recherche esthétisante du film se complète justement par des détails documentaires précis, que ce soit sur les vêtements ou les objets qui entourent le goutte. Le modèle du personnage de Monhwa est Kim Keun-hwa, une célèbre chamane devenue héritage culturel intangible numéro 82-2 en Corée du Sud. Par contre, la chanteuse n'est pas une vraie chamane, il s'agit de Sonia, qui imite le chant d'une chamane. Le réalisateur Han s'est longuement exprimé sur la transition de la technique du dessin sur papier et avec pinceau au travail sur ordinateur et à la palette graphique. Il pense que des limites sont infranchissables par les techniques numériques. Cela met en abîme le propos du film sur le chaman et la perte de la qualité qu'elle représentait pour la société. Cependant, au niveau des idées, il est clair qu'en filigrane, le réalisateur défend la position chrétienne et la modernité qu'elle représentait alors. La chamane, prise dans son monde patriarcal traditionnel, ne pouvait que voir ses valeurs et sa famille décliner. Des allusions à l'inceste et à l'alcoolisme font aussi du film une œuvre pour adultes, malgré les couleurs acidulées et le style à la Mulan des personnages. Sans parler de la musique fusion, qui semble sortir moins d'âge ancien que de complexes et indigestes tentatives de plaire à tout le monde. Le film marque néanmoins, derrière son culturalisme facile et son côté heritage film, une énième tentative de l'animation sud-coréenne d'exister au niveau international.
Voilà, c'est la fin de cette édition de Séoul au jour le jour. C'était Ko Jang-sun avec Kim Hong-ju à la réalisation. Merci de votre écoute. Je vous souhaite une très bonne soirée.